La sagesse, clé des clés. La sagesse, clé des clés. Nous avons dit, Salomon avait un bon rêve, un très bon rêve. C'est d'être un roi exceptionnel. Donc, Salomon avait un bon rêve. C'est d'être un roi exceptionnel. Un roi qui va marquer sa génération. Donc, parmi les différents rêves minuscules, R minuscules que tu as, il faut que sorte le rêve avec grand R majuscule. Il y a des petits rêves qui viennent de nos désirs, de nos petites ambitions, ou des rêves empruntés avec des gens à gauche, à droite, parce que des gens nous ont influencés. Quand nous avons vu quelqu'un avoir la médaille d'or, quand on regarde la télévision, il a eu la médaille d'or, alors bien qu'on a des jambes grosses, on veut devenir coureur de 100 mètres. Ça, c'est un faux rêve déjà. Ouais. Quand tu regardes tes jambes là, c'est comme des pattes d'éléphant. Et toi, tu rêves à devenir, à porter une médaille d'or comme coureur de 100 mètres. Donc ça, c'est des faux rêves qui ne vont jamais se réaliser. Il y a ces faux rêves que nous traînons avec nous. Nous traînons ces faux rêves-là et ensuite des rêves que nous avons empruntés aux gens parce que nous avons entendu que telle personne a réussi ici, ça devient nos rêves. Au fur et à mesure, dans la première partie de notre vie, nous traînons des rêves comme cela. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, et à partir de 12 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à 21 ans, nous commençons à éliminer, à procéder par élimination, donc tous ces faux rêves-là. Nous les mettons de côté au fur et à mesure. Nous les mettons au fur et à mesure. Et de ces faux rêves, ou bien de ces rêves impossibles, va sortir maintenant le rêve des rêves. Et ce rêve-là va saisir vos entrailles, va remplir votre pensée en permanence. Ce rêve, à n'importe quel moment, ça revient. Même quand vous l'oubliez, quand vous le repoussez de la main gauche, vous le voyez, il revient dans vos discussions. Même quand vous parlez, dans votre manière de parler, ça sort. Alors, vous savez que ce rêve-là, c'est quelque chose de réel, de profond qui est en vous. Mais vous ne savez pas comment ça va se réaliser. Et c'est pourquoi Salomon, il sait qu'il doit être roi. Mais il ne veut pas être n'importe quel roi. Il veut être un roi qui marque sa génération. Il veut être un roi exceptionnel. Parce qu'il a vu son père être roi. Et lui veut être un roi au-dessus de son père. Ce qui est légitime. Il n'était pas orgueilleux. Mais il voulait être, parce que son père l'avait éduqué dans ce sens-là. D'être un homme excellent. De cultiver l'excellence. De mettre de côté la médiocrité, la fausseté, du moins tout ce qui n'est pas bien, d'être un homme intègre. Alors, avec ça, Salomon a commencé à chercher. Il ne cherchait pas la gloire vaine, il ne cherchait pas la réputation, il ne cherchait même pas les richesses. Salomon s'est dit, pour être un roi, alors il faut que j'ai la clé des clés. Pour que mon rêve, qui est le rêve de toute mon enfance, d'être un grand roi, pas un grand roi populiste, pas un grand roi simplement qui one man show, mais un roi qui va affecter sa génération. Parce que mon nom signifie pacifique, mon nom signifie paix. Je vais marquer le royaume de la paix. C'est de ça que les gens ont besoin. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et je veux que mon nom devienne une réalité dans tout mon royaume. Vous entendez? Je veux que mon nom là, mon nom qui veut dire Salomon, Suleiman, qui veut dire ça, qui veut dire paix, je veux que tout le royaume là, effectivement, il a eu un bon rêve. Mais maintenant, quelle est la clé? C'est ça. Vous pouvez avoir un bon rêve, mais si vous n'avez pas la clé, on l'a vu, la caisse contient du trésor, mais si vous avez la mauvaise clé, alors vous allez être frustré. Et c'est ça que les gens... Et la clé des clés, Salomon va la prendre par la boue de son père. On va relire encore Proverbe 4. Proverbe 4, ce que son père... Il a dit ce que son père lui a enseigné. Proverbe 4. Son père passait, David passait le temps à rappeler, à dire à son fils ce qu'il y avait.
Proverbe 4, il dit au verset 3, j'étais pour un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Deuxième chose, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. On a vu le verset 7 où en français il est écrit, voici le commencement de la sagesse. Alors qu'en hébreu, en anglais, c'est dit, la sagesse est la principale chose. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Vous voyez? Ça, c'est ce que Salomon a appris avec son père. Donc, toute son enfance, son père lui disait, mon fils, si tu veux être un grand roi, si tu veux une couronne de grâce sur ta tête et non pas une couronne de honte, si tu ne veux pas la honte, voici ce que tu dois demander, ce que tu dois chercher, c'est la sagesse. Car la sagesse, sa capacité, elle met sur la tête des hommes des couronnes. Beaucoup de gens sont couronnés, mais ce n'est pas des couronnes de grâce. Beaucoup de gens, mais ils n'ont pas cette grâce de Dieu. Il dit, la sagesse donne la couronne de grâce. Et cette couronne de grâce-là, tu seras un roi qui va tellement impacter la vie de ses concitoyens que le monde entier parlera de toi. Combien de fois Jésus a parlé dans ses prédications, dans Matthieu 12, dans Matthieu 12, dans Matthieu 6, Jésus a parlé de Salomon. Vous voyez? Tellement il a impacté que même Jésus, quand il est venu, il a parlé de la sagesse de Salomon. Donc, combien d'années plus tard? Des centaines d'années plus tard, on n'a pas oublié. Et encore aujourd'hui, dans le monde entier, on parle de la sagesse de Salomon. Donc, des milliers d'années. Pourquoi? Parce que la sagesse est la chose principale. C'est la sagesse qui t'élève. Si tu l'exaltes, si tu l'embrasses, si tu en fais ton ami, la sagesse, elle va t'élever. Elle va te donner le succès. Dans la droite de la sagesse, il y a la richesse. Dans sa gauche, il y a la longue vie. Alors, une chose comme cela, quand tu entends ça, alors laisse tout et commence à fouiller. Et le livre des Proverbes, c'est le livre de la sagesse. Le livre des Proverbes, c'est un livre que j'aime. C'est rare que je fasse une journée sans lire un passage du livre des Proverbes. Parce que j'ai découvert là-bas tout ce qui est pratique. Il y a un jeune homme qui hier a posé une question, ce qui est pratique. Lis le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est un livre pratique. C'est 31 chapitres. Prends la décision tout le mois. Prends chaque jour un chapitre jusqu'au 31. 31 jours et tu vas lire le livre des Proverbes et tu seras étonné de tout ce que tu cherches là. La solution est déjà dans le livre des Proverbes. Jeunes gens, à l'université de la jeunesse, nous voulons que vous imitez les jeunes, ceux qui ont impacté le monde, et non pas ceux qui ont détruit le monde, et non pas ceux qui ont fait du mal au monde. Alors Salomon est un de ces jeunes gens-là. Il a impacté le monde, parce que quand son père l'a élevé de cette manière, il a dit « mon père a raison ». Le père de Salomon était son mentor spirituel à la fois. Il était son père physique et en même temps son père spirituel. Il n'a pas séparé les deux. Il n'a pas séparé les deux. Il a dit, c'est mon père physique, je fais de lui mon père spirituel. Je vais l'imiter, je vais regarder comment il a réussi, je vais m'asseoir à son ombre. Il a dit que la sagesse, quand on s'assoit à l'ombre de la sagesse, il y a autant de sécurité que si on est assis à l'ombre de l'argent. Oui, la sagesse donne la sécurité plus que l'argent. L'argent disparaît, mais la sagesse, Si ton argent disparaît, tu auras la sagesse, demain tu vas avoir l'argent. Mais si tu as l'argent et c'est disparu sans la sagesse, tu n'auras plus l'argent. Ce n'est pas quelque chose de farfelu que je vous parle, jeunes gens. C'est quelque chose. Si le monde, si les rois de ce monde-là, si ceux qui dirigent ce monde-là avaient demandé la sagesse, ils allaient affecter leur nation. Ils allaient s'asseoir et par la sagesse, ils allaient voir dans quel domaine de développement on doit aller. Dans quel développement on doit aller. Les gens disent qu'il faut des technocrates. Les technocrates sans sagesse, ça c'est dangereux. Un technocrate sans sagesse ne mène nulle part. Parce que c'est pas la technologie qui fait les choses. Ça c'est important. Et Salomon a compris cela. Salomon était humble. Salomon cherchait vraiment Dieu. C'est pourquoi dans 1 Roi 3, verset 7, 1 Roi 3, verset 7, Salomon dit ceci, 1 Roi 3, et au verset 7. Salomon a reconnu ses limites, et si nous voulons progresser, nous devons connaître nos limites, et si nous connaissons nos limites, nous allons demander celui qui est illimité. L'aide à celui qui est illimité. Mais un homme qui croit qu'il est illimité n'aura pas besoin de quelqu'un d'autre. Et son orgueil, comme Nebuchadnezzar, va le perdre. 1 Roi 3, verset 7. Voilà ce que Salomon dit. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Pourtant, il a fait les meilleures écoles. Parce que tout enfant de roi est enseigné par les meilleurs professeurs, oui ou non? Mais il n'y a pas de professeur pour diriger un pays. Il n'y a pas de professeur pour être un roi. Il faut la sagesse. Vous entendez? Parce que un pays, c'est un ensemble de caractères. Des gens, il y a des gens rebelles, il y a toutes sortes de gens. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas une école où on apprend à être roi. C'est la sagesse qui conduit. Si les gens de ce monde-là comprenaient ça, ils allaient conduire les choses facilement. Donc, Salomon a compris. Il dit, je suis un jeune homme, c'est-à-dire que je suis immature, je n'ai pas d'expérience. Mais je veux réussir. Mon désir est de réussir. J'ai les ingrédients, mais comment faire la sauce? Ce n'est pas parce que tu as envoyé ta fille de 8 ans, ou bien 10 ans pour aller au marché, elle va acheter du gombo, elle va acheter du sel, elle va acheter de l'huile, et qu'elle peut faire la sauce. Les ingrédients qu'elle a dans sa main ne lui donnent pas la capacité de faire la sauce. Ce sont les ingrédients, mais il lui faut une sagesse pour savoir mélanger, sinon elle va te faire une sauce que tu ne pourras pas manger. C'est cela la vie. C'est pourquoi il y a des gens, tu vas leur donner 300 millions dans 3 jours, il reste 0 million. Même son nez, là, l'argent ne coule pas son nez. Ça ne sort pas son nez. Ses oreilles, ça sort. L'argent, là, l'argent va vite. Il va vite, vite, vite. Il sort pas son nez, ses narines, tout. L'argent s'en va. Parce qu'il n'a aucune sagesse pour prendre l'argent en main. Et il y a des gens, tu leur donnes 100 francs. Si tu reviens dans 3 ans, tu vas venir trouver 1 million posé. C'est ça. La sagesse fait passer d'un homme à un niveau N, à un niveau N plus 5. C'est ça. Ça, c'est très important. Toute la journée, vous avez des ateliers, vous parlez, vous concoctez, c'est très bien. Maintenant, moi, je vous donne l'instrument et qui va vous aider à rassembler tout ça, à en faire quelque chose de réel, de fonctionnel. C'est la sagesse. Dieu même a tout fait par sa sagesse. Le grand Dieu là, il a tout fait par sa sagesse. Alors, si Dieu a travaillé par la sagesse, et Jésus, il dit, le petit enfant était rempli de sagesse. Le petit enfant Jésus là, était rempli de sagesse. Alors, et Salomon, c'est la sagesse. Paul, c'est la sagesse. Moïse, la sagesse. Abraham, la sagesse. Alors, si vous voulez réussir, vous devez suivre ces gens-là. Vous devez les suivre. Et vous allez impacter. Vous allez, en tout cas, positivement toucher votre génération. Et vous ne serez pas des gens oubliés. Vous ne serez pas des gens oubliés. Même le cimetière, votre tombeau va parler. Quand les gens regardent... Non, au cimetière, quand vous allez, il y a des cimetières, même, on ne sait même plus. Même les parents, quand ils viennent, ils ne savent pas qui est enterré ici. Ils ne savent pas qui est enterré. Parce qu'il n'a rien fait. On s'est débarrassé de son corps, on l'a enterré, puis on est parti. Mais les gens, on a enterré, on a dit, il a tellement impacté, on va venir mettre des carreaux. On va venir mettre encore quelque chose pour marquer. Comprenez? C'est ça. Donc, soyez ces gens-là. Et cela ne peut se faire que par la sagesse. Et Dieu va répondre. Dieu va répondre. Il a fait une prière au verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Vous voyez? Il dit, donne-moi un cœur intelligent. Je veux apprendre à juger entre le bien et le mal. Je ne veux pas être un roi qui va utiliser son autorité pour brimer le peuple. Non! Je veux être un roi honnête, intègre, un roi juste. Quand un riche et un pauvre viendront devant moi, je ne veux pas regarder la face du riche pour brimer le pauvre. Je veux savoir discerner entre le bien et le mal. C'est ça qui a fait que Salomon a réellement touché le monde. Il n'était pas un roi qui était du côté des riches au détriment des pauvres, non. Il cherchait le bien-être de la population du peuple. Il dit, ce peuple-là est un peuple si grand. Un roi qui honore son peuple va dire à Dieu, donne-moi la sagesse. Ces gens que tu m'as confiés là, donne-moi la sagesse de les conduire afin qu'à la fin de ma vie, que ce peuple-là se rappelle qu'en tout cas, j'ai tout fait pour être impacter leur vie positivement. C'est cela. Que j'ai impacté leur vie positivement. Et Dieu va répondre. Regardez le verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Cette demande-là lui a plu. Est-ce que vous savez pourquoi plusieurs fois nous n'avançons pas? Parce que nous demandons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Cette demande-là, laquelle? Celle-ci de spécifique. Ça veut dire que Salomon peut-être a eu autrefois, a fait des demandes, ça n'a pas plu à Dieu. Mais celle-là, celle-ci de précise-là, ça a plu à Dieu. Quelle est la demande que vous devez faire qui plaît à Dieu? La demande qui plaît au cœur de Dieu, c'est lorsque vous voulez être utile aux autres. Vous voulez que les autres soient bien. Mais si vous voulez être sûrement, avoir de l'argent pour commander, pour diriger, brimer les gens, cette demande-là, Dieu ne l'exaucera jamais. Même si vous apprenez toutes les techniques, même si on vous donne les principes et les lois, Dieu ne vous exaucera pas. C'est pourquoi des gens terminent leur vie. Ils ont tout. Ils ont des voitures. Mais ils ont peur. Pourquoi Zachée avait peur? Zachée était un notable. Il était chef des publicains de sa ville. Il était un homme riche. Mais pourquoi il n'a pas la paix? Parce qu'il savait que sa richesse n'était pas basée sur un fondement solide. Il n'avait ni la joie ni la paix. Et on a parlé d'un certain Jésus de Nazareth. Il a dit, mais cet homme-là, partout où il va, il donne la paix aux gens. Moi, je veux la paix. Parce que la richesse, la position sociale que j'ai, ne me donne pas la paix. Et des multitudes d'hommes dans ce monde-là ont des positions sociales très élevées et n'ont ni la paix ni la joie. Et c'est pourquoi il y a des suicides. C'est pourquoi des revolvers, des pendaisons, des gens se tuent. Pourquoi? Ils ont tout, pourtant, mais ils n'ont pas la paix. Car la paix est l'élément fondamental du cœur qui permet à un homme de vraiment de jouir de ce qu'il a. Parce qu'il n'a pas peur de quelqu'un. Il n'a pas peur parce qu'il n'a pas pris. Il n'a pas fait du mal à quelqu'un. Il n'a pas peur. C'est ça. Ça, c'est très important. Cette prière-là plut à Dieu. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, vous voyez bien, tu ne demandes pas une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, vous voyez bien, la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne, une personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, vous entendez, quand vous demandez la sagesse, toujours, y a un plus. Ah oui. Si vous, parce qu'un homme sage, Dieu est prêt à remettre entre les mains d'un homme sage, d'une femme sage, la richesse et la gloire. Sachant que la sagesse va empêcher cet homme-là d'utiliser ça à son propre détriment. En outre, ouais, il n'a même pas demandé. Dieu dit en outre. C'est-à-dire en plus. En plus. Ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura personne pendant toute ta vie et aucun roi qui soit ton pareil. Aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois, mes commandements, comme je l'ai dit à David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le rêve. Il s'est éveillé et voilà le rêve. Ah, enfin, la chose principale que Salomon cherchait, enfin, il vient de l'avoir. La sagesse. Et Salomon savait qu'avec ça, le succès était là. Tant qu'il va exercer son règne dans la sagesse, alors le succès est là. Et regardons, et Salomon a eu ça, résultat de la sagesse, 1 roi 4, chapitre 4, verset 29. Regardons, on nous parle de la sagesse de Salomon, 1 roi 4, verset 29. 1 roi 4, 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de toutes les filles de l'Orient. Vous entendez? Toutes les filles de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens, qui était la grande puissance de l'époque. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ésraclite, plus qu'Éman, Galgol et Darda, les fils de Makor, qui étaient des gens, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Choriste, qui peut faire mieux? Ah, il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban, jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a parlé, c'est-à-dire qu'il avait une sagesse, il décrivait les arbres. Quand les gens s'asseyaient, quand il décrivait un arbre, les gens disaient, mais le type là, il est fort. Ouais. Ensuite, il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Allons dans deux chroniques, après un roi, on a deux rois, après deux rois, on a le livre des chroniques, premier livre des chroniques et deuxième livre des chroniques. Deux chroniques 1, verset 15. On parle de lui encore. Le roi Salomon rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres. Vous entendez? Il a rendu l'or et l'argent quoi? Aussi commun que les cailloux. Ça veut dire qu'au temps de Salomon, il n'y a plus de loi économique. Car qu'est-ce qui fait les lois économiques? C'est quoi? La rareté. C'est ça, non? Un bien est un bien économique quand il est rare. Alors, quand l'argent et l'or deviennent comme des cailloux, l'argent et l'or sont des biens économiques, ils deviennent des biens communs. C'est ça. Et vous comprenez? Il a rendu l'argent et l'or. Et, vous voyez? Et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. Il a rendu ça comme ça. Ça, c'était Salomon. Aujourd'hui, on va avancer. Et nous, et vous, et moi, et vous en particulier, jeunes gens. La question, vous dites, ah, c'est Salomon. Non, ce n'est pas une exception. Le problème, vous avez un rêve. Certains ne sont pas arrivés d'abord à bien clarifier leur rêve parce qu'ils sont au milieu de beaucoup de rêves. Donc d'abord, première chose qu'il faut faire, c'est d'arriver à décanter pour avoir le rêve avec grand R. Ça, c'est un. Quand il y aura le rêve avec grand R, ce que vous êtes censé dans votre cœur poursuivre dans cette vie-là, alors commencez à demander la sagesse. Le S va sortir. Quand le R est là, le S va sortir. Et Vous allez voir la suite se suit automatiquement. S'il n'y a pas d'abord un rêve, si le rêve n'est pas défini, si le rêve n'est pas clair, quand il dit rêve, ça veut dire vision, ça veut dire objectif, ça veut dire beaucoup de choses dans le langage, le quotidien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce qui anime vos pensées? Quand vous couchez dans votre lit, qu'est-ce qui anime dans vos pensées? Ne laissez pas que vos, dans vos lits là, vos pensées soient animées par des choses vraiment secondaires. Ne pensez pas à, voilà, c'est cette fille-là que je veux, c'est ce garçon-là que je veux. Ne soyez pas, demain vous changez, c'est autre fille que j'ai vue aujourd'hui, c'est un garçon que j'ai vu aujourd'hui. Ne regardez pas, ah, si je pouvais avoir cette moto-là, cette voiture-là. Ça, c'est pas des rêves, ça, c'est des convoitises. C'est pas des rêves, c'est des convoitises. Et la Bible dit que la convoitise des yeux perd les gens. Parce qu'un rêve ne change pas, tout le temps, tout le temps. Donc, dans un premier temps, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'un rêve. Et vous commencez à comprendre, c'est la pensée qui s'impose à vous, qui est là, et qui, même si vous la rejetez, elle revient. Et si même vous l'avez oublié, elle jaillit dans chaque situation, et les gens, vous semblez rencontrer des gens qui vont vous rappeler ce rêve-là. Ah donc, vous savez qu'il y a quelque chose qui est réel dans ça. Donc, c'est ce rêve-là que vous devez enrichir. Enlever, c'est comme l'or. Quand on extrait l'or du sol, on enlève les autres métaux là, oui ou non? Voilà, on enlève les autres métaux, sinon l'or ne sera pas un or pur. Le rêve est comme cela. Il faut le débarrasser des autres métaux, des autres rêves qui sont des convoitises, qui sont des désirs impurs. Il faut les enlever et vous aurez entre vos mains maintenant non plus le rêve brut, mais le rêve net, le rêve purifié. Ce rêve là que la sagesse, la clé des clés, va commencer à utiliser dans votre vie. Et chacun de vous a un rêve, et chacun de vous, Dieu donne la sagesse pour que ce rêve-là s'accomplisse dans votre vie. Je l'ai dit que certains peuvent être en deux étapes. Le rêve naturel que vous avez, mais au bout de peut-être de 15 ans, ce rêve naturel arrive à son terme, et Dieu change, et Dieu vous donne maintenant son rêve. Moi, au bout de 15 ans, je suis passé de mon rêve naturel à un rêve spirituel de Dieu. Je suis passé de désir d'être un économiste, maintenant je suis passé à serviteur de Dieu. Donc, les deux se sont chevauchés, et à un moment donné, le rêve de Dieu est venu dominer le rêve, mais le rêve naturel qui s'est réalisé a permis que j'ai des éléments naturels que maintenant Dieu utilise pour me permettre que le rêve que lui-même il a préparé se réalise normalement. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des choses qu'on peut dire. Parce qu'il y a l'individu, l'environnement qui joue sur les rêves et pour qu'ils s'accomplissent. Donc, si vous n'avez pas de mentors, si vous n'avez pas des gens qui comprennent votre rêve restera là, brut, mélangé de beaucoup de choses, de convoitises, de désirs imparfaits, et le rêve ne s'accomplira jamais. Alors, donc, on a vu avec Salomon, et nous aujourd'hui, où est la sagesse? Aujourd'hui, nous allons parler, parce que votre rêve, c'est en vous, entre vous. Mais maintenant, je vais vous parler beaucoup de la sagesse pour que vous sachiez, lorsque votre rêve sera bien défini, parce que je n'aime pas définir votre rêve, parce que c'est personnel. Le rêve est individuel, est personnel. Donc, c'est vous qui, je vous ai décrit ça de façon globale, c'est vous qui devez savoir ce qu'est votre rêve et quels sont les rêves que vous avez et quel est le rêve principal qui doit dominer les autres rêves. Vous savez, quand Moïse est entré dans la cour de Pharaon, les magiciens avaient leur. Quand le bâton de Pharaon, de Moïse s'est transformé en serpent, les magiciens de Pharaon aussi ont jeté leur bâton, non? Il y a eu plusieurs serpents. Mais quel est le serpent qui a vaincu? Serpent de Moïse. C'est votre rêve est comme ça. Il y a plus petits rêves, des petits rêves à gauche, à droite. Mais le grand rêve là va avaler tous les autres serpents. Il a avalé et puis s'est tenu debout. Oui ou non? C'est ce rêve-là qui va vaincre. C'est pas ce rêve-là qui a vaincu. C'est pas ce serpent-là qui a vaincu. C'est ça. Donc. C'est pourquoi vous avez des petits rêves à gauche, à droite, qui viennent des petits magiciens, des clubs ésotériques. Hein? Mais vous vous débarrassez de ça au fur et à mesure, qui viennent de votre chair, qui vont de vos pensées, de convoitises, au fur et à mesure. Et le grand rêve, avec grand R, va se redresser. Et aucun pharaon ne peut tenir devant ça. Aucun magicien ne peut tenir devant ça. Oui, c'est ça. Personne ne peut et cacher ses rêves là, il va sortir. Vous entendez? Il sort. Il va vaincre. Il apparaîtra. Il ne disparaîtra pas. Regardons ce rêve-là, et du moins cette sagesse, la sagesse qui va vous aider à comprendre. On va dans 1 Corinthiens 3, et regardons verset 7. 1 Corinthiens 3, 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui aime qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est 1 Corinthiens 2. Je me suis trompé. 1 Corinthiens 2, verset 7. Voilà, c'est mieux. Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Ah, écoutez maintenant, ça c'est très important. Donc, j'ai dit que votre rêve est mêlé de beaucoup de plusieurs petits rêves. Mais votre grand rêve-là va avaler ces petits rêves-là. Et un jour, c'est votre grand rêve-là qui va apparaître. Et je ne sais pas à quel niveau de rêve vous êtes aujourd'hui. Vous êtes des jeunes gens. Je ne peux pas m'asseoir ici vous le dire. Il n'y a que Dieu qui est en train de vous conduire. Et ces rêves-là, maintenant, je peux vous aider à les purifier. Pour que vous ne confondez pas vos désirs, vos ambitions personnelles, vos convoitises avec les rêves. Une convoitise, c'est une autosatisfaction. Elle donne toujours une culpabilité. Mais un rêve ne donne pas une culpabilité. Quand un rêve est accompli, ça apporte une certaine paix. Par contre, les convoitises apportent toujours une culpabilité, donc un complexe dans votre vie. Mais pour cela, je préfère vous parler de la sagesse. Pour, comme on a dit, la clé des clés. C'est ça qui a ouvert le coffre hier. Alors, la sagesse là, voici ce que Paul décrit. Paul la décrit en disant que la sagesse de Dieu, elle est d'abord mystérieuse et cachée. Mais n'ayez pas peur de ça. On ne va pas vous demander de la chercher. Quand la Bible explique la Bible, quand vous voyez un passage que vous ne comprenez pas, cherchez. Son explication est ailleurs. Quand on dit qu'elle est mystérieuse et cachée là, on n'a pas dit qu'elle est mystique. Hein? Ah, bon, si elle est mystérieuse et cachée, mais où on va la trouver? Dieu répond à Dieu. La parole répond à la parole. Mais si vous restez ici, vous serez dans la frustration. Adam, on dit, mais le pasteur, tu nous parles de sagesse. On te dit qu'elle est mystérieuse et cachée. Alors donc, on laisse tomber, pasteur. Non, on ne laisse pas tomber. Continue. On dit qu'elle est mystérieuse, elle est cachée. Parce que les choses cachées appartiennent à qui? Et les choses révélées appartiennent à qui? À Deutéronome 29-29. Alors, les choses cachées sont à Dieu. Mais maintenant, ceux qui désirent là, Dieu va les révéler, oui ou non? C'est ça que Dieu veut, que tu aies dans ton cœur le désir que les choses cachées de Dieu soient les choses personnelles. Donc, ça va passer de caché à toi par la révélation. N'aie pas peur là. N'aie pas peur. Les choses qui sont cachées doivent être révélées. Mais d'abord, elles appartiennent à Dieu. Tout ce qui est à Dieu est caché, est mystérieux. Et tout ce qui est à toi est révélé. C'est ça que Paul dit ici. Alors, il dit que verset 8, « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Alors, nous voyons ici, et cette sagesse mystérieuse est cachée là. Allons dans Colossiens 2. Cette sagesse mystérieuse est cachée, Colossiens 2 et au verset 1 et jusqu'à 3. Colossiens 2, verset 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient un, unis dans la charité, et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la
science.
Ah. On dit que la sagesse de Dieu est quoi? Mystérieuse et cachée. Et on dit que le mystère de Dieu là, c'est qui? Christ. Ce mystère là, qu'est-ce qu'il y a là, en lui? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors, versets 26 et 27 maintenant. Colossiens 1, 26, 27. Colossiens 1, 26, 27. On dit, tous les trésors sont cachés en Christ. Ah, on dit que c'était caché. C'est mystérieux, c'est caché en Christ. Regardons, Colossiens 1, 26, 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Révélé maintenant à qui? À qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en vous, l'espérance de la... Retournons au commencement dans 1 Corinthiens. Je ferme le cycle pour que vous compreniez. 1 Corinthiens nous dit quoi? 1 Corinthiens nous dit, écoutez, il y a des secrets clairs. Et c'est là que vous n'écoutez pas. C'est-à-dire que vous laissez divertir. Ce n'est pas le temps de se laisser divertir. Ne vous laissez pas divertir ni par la chaleur, ni par rien d'autre. Dieu nous dit, par la bouche de Paul, nous prêchons la sagesse de Dieu. Elle est mystérieuse et cachée. Mais cette sagesse-là, Dieu dit qu'elle est destinée pour notre gloire. Ah, ok. Ah, mais où elle est? Le même Paul me dit, j'ai expliqué ça aux Colossiens. Donc j'ai couru, je suis allé aux Colossiens. J'ai vu Colossiens 2. Il me dit que le mystère de Dieu, que les gens ne comprennent pas, le mystère de Dieu est dans une seule personne, savoir Christ. Et ce mystère de Dieu-là, qui est Christ lui-même, ce mystère-là contient aussi des choses cachées. Puisque moi, je suis en train de chercher quoi? Les choses cachées. La sagesse cachée. Il me dit que le mystère de Dieu, qui est Christ, et il contient quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Ah, ce n'est pas encore explicite. Je suis en train de chercher la sagesse qui est mystérieuse et cachée. Et il me dit que cette sagesse-là est en qui? En Christ. Et maintenant, il me dit, pour terminer, que ce Christ-là est où? Ce Christ est en qui? Alors, ce Christ est en moi. Il est en moi avec quoi? Alors, c'est pourquoi ce Christ en moi, c'est l'espérance de quoi? Alors qu'on a dit que la sagesse qui est mystérieuse et cachée, c'est pour notre gloire. Si j'ai ce Christ en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science, maintenant j'ai quoi? La sagesse et la gloire. Alors, où est-ce que vous comprenez? Hein? Le cycle est fermé. Le cycle est fermé. C'est ça que les hommes de Dieu n'arrivent pas à comprendre. Bon, on balance les gens. Allez-y chercher. Priez. Non. Avant de prier, il faut d'abord que la boucle soit fermée. Si tu ne mets pas à la disposition des gens les réalités du christianisme, tu les mets dans l'embarras. Tu les mets dans l'embarras. Alors, aujourd'hui, est-ce que nous devons faire comme Salomon? Aller chercher la sagesse. Hein? Parce qu'elle est déjà où? Elle est en qui d'abord? Non, avant d'être en nous, elle est en qui? Et Christ est où? Donc, si devait faire le théorème de deux triangles semblables. Donc, le triangle ABC et le triangle D, quoi? Semblable. Donc, je cherche la sagesse. Elle est mystérieuse et cachée. Je suis découragé. On dit, ah bon? C'est le mystérieux et caché. Dieu me dit, mon enfant, ne te décourage pas. Tout ce qui est caché m'appartient. Tout ce qui est révélé appartient à toi. Ah bon? Tu as révélé alors? Alors, si ce n'est pas caché, tu as révélé, dis oui, j'ai révélé. Comment? Il dit, Christ que j'ai envoyé là, c'est le mystère de Dieu. Et dans ce mystère de Dieu là, c'est Christ lui-même, il y a tous les trésors de la sagesse et de la science cachés. Ah bon? Mais ce Christ est où? Il dit, mais il est en toi. Mais s'il est en toi, donc qu'est-ce qui est en moi? La sagesse. Et si la sagesse est en moi, j'ai quoi? La gloire. Alors, je commence à louer le Seigneur, oui ou non? C'est ça. Écoutez, Je vais vous montrer tout à l'heure les chercheurs. Et vous allez voir quels sont les chercheurs vous êtes. Il y a plusieurs sortes de chercheurs. Il y a des chercheurs qui cherchent, qui ne trouvent rien. Il y a trop de chercheurs dans le monde. Quand on leur dit 5 ans après, déposez les fruits de votre recherche, il n'y a rien. Même pas un produit pour tuer les moustiques. On a investi des milliards, même pas un produit pour tuer les moustiques. Ça, ce n'est pas un chercheur. Hein? Ce n'est pas un chercheur. Qu'est-ce que vous cherchez? Ça dépend. Vous, certains sont là, ils croient. Certains sont là, ils croient que Dieu va leur donner des choses magiques. Non. Dieu donne les choses à des gens qui sont des chercheurs. C'est pourquoi quand vous lisez dans Matthieu 7, on parle des 3 degrés de la prière. Le premier niveau de la prière, qui est l'école primaire de la prière, c'est quoi? C'est demander et vous recevez. Vous demandez seulement et vous? Mais le deuxième niveau, c'est quoi? Chercher. Ah, chercher demande quoi? Un prix, non? Oui ou non? Et le troisième niveau, c'est quoi? Frapper. Et celui qui est content, là, s'il veut, il fait quoi? S'il n'est pas content? Donc, en ce moment, frapper, ça dépend de vous. Mais beaucoup de gens s'arrêtent et disent la prière, c'est demander et recevoir. Quand ils demandent, ils ne reçoivent pas, ils sont découragés. Mais Dieu dit que c'est demander et recevoir, c'est l'école primaire de la prière. Cherchez, vous trouverez. C'est le lycée. Frapper, donc vous ouvrez, c'est l'université. Est-ce que quand tu étais à l'école primaire, quand le maître dit 1 plus 1, tu dis égal combien? Mais quand tu es arrivé à l'algèbre, 1 plus 1, ça résout le problème d'algèbre? Hein? Ah, donc c'est ça. Le problème, vous acceptez les choses naturelles. Quand vous allez dans les choses spirituelles, vous n'acceptez pas. Il y a 3 niveaux aussi dans les choses spirituelles. Il y a les choses primaires, il y a les choses secondaires, il y a les choses tertiaires. C'est ça. La vie chrétienne n'est pas une vie magique. Jeunes gens, c'est la même chose. Mais souvent, les gens restent au niveau demander, vous recevrez. Quand ils ont demandé, ils n'ont pas reçu, ils quittent le christianisme, ils s'en vont ailleurs. Pourquoi on redouble? On redouble parce que on n'a pas bien compris et l'année suivante, on passe en classe supérieure. Donc, c'est ça que Dieu nous dit ici. Et la sagesse ouvre la porte à celui qui... Donc, le verset 7 nous dit que si nous avons trouvé, si nous la sagesse de Dieu là, elle est pour notre gloire. Elle est pour notre gloire. La sagesse ouvre la porte à la gloire. La sagesse enveloppe les choses. Regardez le verset 9. Mais comme, toujours 1 Corinthiens 3, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, la sagesse vous révèle quoi? Les choses cachées, que l'œil naturel ne peut pas, que les oreilles naturelles ne peuvent pas entendre. Donc, tu vas à l'église, tu écoutes la prédication, mais tu n'entends pas la voix de la sagesse. Parce que si c'est lui qui prêche, lui-même n'est pas en connexion avec la sagesse, il ne peut pas communiquer la sagesse. Il ne peut pas communiquer. Il va te communiquer des prédications. Quand tu écoutes, tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? Tu ne comprends pas la prédication. Tu ne la comprends pas, non pas qu'elle n'est pas claire. C'est-à-dire qu'elle ne te donne rien. Un professeur est censé donner à l'élève ce qu'il ne connaît pas, à révéler à l'élève ce qu'il ne connaît pas, et que l'élève puisse progresser au même niveau que le professeur. Un enfant qui rentre à l'école primaire, il est à connaissance zéro, il a une intelligence brute. Mais au bout de 20 ans, il arrive à l'agrégation, il est au même niveau que le professeur principal qui était à l'université, oui ou non? C'est ça le pasteur, c'est ça l'homme de Dieu. Il prend un enfant qui est né aujourd'hui spirituellement, qui est converti, et dans 15 ans, il fait un homme comme lui, peut-être supérieur à lui, sur le plan spirituel. Il ne doit pas le dominer. Notre rôle, ce n'est pas de dominer. Vous êtes à l'université, vous n'avez pas dépassé le niveau de votre maître de l'école primaire. Est-ce qu'il est jaloux? Mais sans lui, est-ce que vous pouvez arriver à l'université? C'est ça. C'est ça le principe de la vie spirituelle. C'est quand nous comprenons les choses cachées. Il dit, le Saint-Esprit va nous montrer ces choses cachées. Il dit, ces choses-là, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit Saint, c'est pourquoi le Saint-Esprit, vous êtes le temple de qui? Bon, écoutez. Dieu est en vous. Christ est en vous. Et Christ est en vous avec les choses quoi? Cachées. Alors, est-ce que vous pouvez les connaître si le Saint-Esprit n'est pas en vous? Qui révèle ces choses cachées là? C'est pourquoi le Saint-Esprit aussi est venu où? Il est venu en vous. Pour faire quoi? C'est lui seul qui va les enlever maintenant. C'est comme l'or dans le sol. Ce n'est pas le menuisier qui enlève l'or. Tu as dit avec un menuisier enlever l'or? Ceux qui enlèvent l'or, on les appelle quoi? Or pas eux, mais des mineurs, oui ou non? Le rôle du Saint-Esprit est d'extraire les éléments qui sont en toi pour te les donner. L'or qui est caché là, lui, il les amène au dehors. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Alors, mais si vous n'aimez pas le Saint-Esprit, comment il va faire? Vous comprenez? Les trésors cachés, Dieu dit, lui il est assis au ciel, il dit, je vis en toi par mon fils. Et dans ce fils-là, j'ai tout mis déjà, tous les trésors cachés, j'ai mis en lui. Mais tu dis, ah, mais comment je vais faire? Il dit, ah, comme tu n'es pas un spécialiste, il y a un spécialiste qui s'appelle le Saint-Esprit, il est venu en toi. C'est le même spécialiste qui sonde les profondeurs de Dieu, oui ou non? Si le Saint-Esprit est capable de sonder les profondeurs de Dieu, il ne peut pas sonder à l'intérieur de toi. Donc, aie une communication avec lui. Le Saint-Esprit qui est en toi, il va te révéler au fur et à mesure les choses et tu es étonné. Parfois, quand je prêche, je suis étonné. J'ai envie de me tourner pour voir qui me donne les paroles. Au début, j'étais comme ça. J'ai dit, mais il y a quelqu'un qui me parle. C'est-à-dire que je ne peux pas arrêter. Dès que je commence, on dirait à quelqu'un qui défile des choses devant moi et il les dit. Ce n'est pas mon cerveau. C'est pourquoi je n'ai jamais prêché avec mon cerveau. Mon cerveau forme les mots, le vocabulaire, la conjugaison. Mais ce n'est pas lui. Mon cerveau donne la forme grammaticale seulement aux paroles que le Saint-Esprit me donne. Mais je suis étonné de voir, je suis le premier à entendre les paroles que moi je dis. Il dit, ah, mais pourtant je ne pense pas à ça. Ce n'est pas ça que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit sur mon cahier là, ce sont des versets, des choses que j'écris là. Je n'ai pas écrit ça. Un jour, je prêchais dans un pays là. Quand j'ai fini, il y a des jeunes gens qui sont précipités. Pasteur, donnez-nous votre message. Donnez-nous votre message là. On va voir. Quand j'ai donné ma feuille là, avec quelques versets, je dis, ah bon, c'est ça? Il dit, oui. Il dit, le message est à moi. Le message est à moi. Ça, c'est aide-mémoire, oui ou non? C'est aide-mémoire. C'est-à-dire, j'ai mis des versets pour me rappeler. C'est ça. Sinon, le message est en moi. Et ils ont dit, ah, mais ça, c'est étonnant. Hein? Il dit, mais tout ce que vous avez dit là, ce n'est pas écrit ici. Il dit, mais oui, ce n'est pas écrit. Le Saint-Esprit, son rôle. Il y a tellement de trésors en vous. Et quand vous êtes connecté à Dieu, il vous révèle les trésors au fur et à mesure. On va aller vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. 1 Corinthiens 3, verset 9 dit que les choses. Regardez Marc 4. Regardez Marc 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Regardez. Jésus-même nous parle des choses. Marc 4. Verset 11. Marc 4, verset 11. Verset 10 même. Lorsqu'il fit en particulier ceux qui l'entourait avec les 12, l'interrogeait Jésus sur les paraboles. Jésus leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont au dehors, tout se passe en paraboles. Vous voyez? Ceux qui sont au dehors là, quand ils écoutent la parole là, ils ne comprennent rien. Mais à vous, le mystère vous est donné. Le mystère est en vous. Mais les gens du monde, là, ils ne comprennent pas. Quand on dit ça, on dit, les gens, là, même sont les illuminés, quoi. Carambé, là, ils lavent les cerveaux des gens. Ils lavent les cerveaux des gens. Mais c'est pas, quand on est sale, on se lave, non? C'est mieux. C'est ça. Le mystère, là. Jésus dit, tout est en mystère, pas de mystère. Il dit, celui qui est en Christ, le mystère est en lui. Mais celui qui est au dehors ne comprend pas parce que la source du mystère, Christ n'étant pas en lui, le Saint-Esprit ne peut pas lui révéler les mystères. Il ne peut pas. C'est pourquoi quand tu parles de la nouvelle naissance, il ne comprend pas la nouvelle naissance. C'est pourquoi le grand Nicodème, un grand docteur, Jésus le dit, si un homme est né de nouveau, il dit, hé, hey! Il dit petit. Ah, on dit que tu es sage, mais toi-même ça là, est-ce qu'un homme, tu vois mon âge là, regarde ma tête là, c'est blanc, regarde ma barbe là. Ma mère est même déjà morte il y a 30 ans. Tu veux que je rentre dans le ventre de ma mère et puis sortir? On voit que, est-ce qu'il a la sagesse? Il parle comme un pied. Est-ce qu'un pied réfléchit? Voilà, pata pata, comme ça là. Tout un docteur. Ouais, il est docteur, mais il parle comme un pied. Il dit, mais est-ce que. Mais comment tu vas dire, si ta mère est déjà morte, comment tu vas dire que tu vas rentrer? Elle est déjà morte. Donc on te parle de quelque chose que tu ne comprends pas. Il fallait demander, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Mais lui, il a sa conclusion, il a sa logique. Et il met sa logique dans le royaume de Dieu. Et il se ridiculise. C'est le mystère. C'est par le Saint-Esprit. Et c'est la sagesse. Le Saint-Esprit qui va commencer à vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Il va commencer à vous parler. C'est pourquoi le jeune homme qui a fait FedEx, Federal Express, DHL là, il était assis dans une classe. Le professeur a dit de faire une composition. Quel est votre rêve? Il a dit que lui rêve de la côte Est à la côte Ouest. Donc de New York jusqu'à Los Angeles. Il va faire un système de courrier express. Et il a dit qu'il lui va appeler ça Federal Express, FedEx. Le professeur a mis deux. Il dit, insensé. Il dit, mais ça va pas chez toi? FedEx, c'est quoi ça? Il dit, non, c'était un courrier rapide, professeur. Il dit, c'est ça mon rêve. Parce que j'apprends que les gens, ils envoient des courriers, ça n'arrive pas, c'est lent. Donc, il dit, moi, je vais faire ça. Il dit, non, c'est impossible. L'enfant est sorti 3 ans après, FedEx, ça est dans le monde entier, dans tous les avions, c'est écrit FedEx. Il a des avions personnels. Parce que la sagesse était en lui. Vous comprenez? Il n'y a pas. Vous êtes des mines d'or assis comme ça là. Vous êtes assis comme ça. Non, vous vous regardez. C'est-à-dire que vous vous méprisez. C'est ça le problème. Faut pas vous mépriser. Vous êtes des mines d'or spirituelles. Des mines d'or de succès. C'est ça. En 1901, à Londres, les savants du monde entier sont réunis. En 1901. Pour voir comment ils vont vaincre la loi de la gravitation, comment ils vont faire. Ils ont carré, à la fin, ils sont arrivés à la conclusion. Tous les savants là ont conclu qu'il est impossible qu'un objet en fer, en métal, puisse voler. Ça, c'est en 1901, à Londres. Les savants du monde sont venus des États-Unis, de partout, France. Ils ont dit, ils ont conclu, ils sont arrivés à cette conclusion-là. En ce temps, il y avait deux filles de pasteurs assis quelque part. Les frères Wright. Quand on est venu leur dire ça, ils ont dit, ah bon? Qui vous a dit ça? On dit, non, les savants de l'époque, ça c'est les savants de leur génération. Il y a savants et savants. C'est pas ça? Les gens ne disent pas tôle, c'est pas tôle? Savant, c'est pas savant. Oui ou non? Voici des savants en herbe. Oui ou non? Est-ce qu'ils sont appelés savants? Est-ce qu'on les considère? Est-ce qu'on les a appelés à la réunion des savants? Mais pourtant, c'est des savants qui vont bouleverser le monde. Les voilà assis chez eux à la maison, avec leurs livres en train d'étudier la loi de la gravitation, la loi de la pesanteur. Ils sont en train de calculer, de faire des choses. Ils sont assis. Et quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais comment? Les savants, là, les pères, là, ils sont déconnectés. Hein? Comment ils vont oser faire une déclaration comme ça, là? En 1904, ils avaient inventé l'avion en fer et volait. Donc, ils ont montré à tous les savants de l'époque qu'ils sont dépassés. Vous êtes les savants de la nouvelle génération. Alléluia! Croyez en vous-même. Croyez au potentiel que Dieu a placé en vous. Ne vous laissez pas mépriser par quelqu'un. Ne vous laissez pas, non, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas humilier. La sagesse divine est en vous. Soyez assis. Voyez là? Soyez assis. Ça c'est important. Ça c'est important. Parmi vous là, il y a plein de gens qui sont assis. Des gens, mais quand Dieu les regarde, il montre aux anges, il a dit, tu vois, c'est mon prochain savant comme ça. Alléluia. Mais oui. Ne laissez pas les gens vous dire n'importe quoi. Ne laissez pas. En 1960, quand Kennedy est devenu président, il a appelé l'ingénieur en chef de l'aviation aux États-Unis. Il a dit, sous mon mandat là, en tout cas, sous mon mandat, il est mort tôt, mais il dit, sous mon mandat là, je veux que vous, vous fassiez atterrir un homme sur la lune. L'ingénieur en chef a dit quoi? Il dit, où? Il est sur la lune. Voilà ce que le président, c'est le président Kennedy qui a défié. Il dit, je veux, sous mon mandat là, de président des États-Unis, et le chef, l'ingénieur en chef, là, s'appelle M. Buck. Il a dit, je veux ça. Il est sorti. Il a réuni 19 compagnies, 19 entreprises aux États-Unis. Ils sont venus s'asseoir. Il dit, ah, le président a dit que pendant son mandat là, un homme doit quitter la terre pour poser les pieds sur la lune. Si tu es en Afrique, on va dire là, il est là. Eh! Mais ça, c'est pas. Le président là même. Mais vous voyez, il nous cherche des histoires. Sinon, comment un président va dire que lui veut quelqu'un sur la lune? Les 19 compagnons ont dit ok. Il n'y a pas de problème. Et M. Buck a analysé les possibilités. Et il est arrivé à. Quand il a fini, il y avait 20 obstacles à vaincre pour qu'un homme puisse aller à la lune. 20 obstacles. Et quand il a réuni, quand chaque obstacle, il a trouvé une entreprise appropriée. Oui ou non? Il a dit, dans ce domaine-là, vous êtes fort. Dans ce domaine-là, vous êtes fort. Dans ce domaine-là, vous êtes fort. Au bout de quelques 2 ou 3 ans, les 19 entreprises ont dit, notre obstacle est vaincu. Il restait le dernier obstacle. Et Buck est retourné. Il a dit, puisque les 19 ont été vaincus, le seul obstacle avec toute la puissance de Dieu et de l'Amérique derrière moi, ça sera vaincu. En 1969, l'homme a posé les pieds sur la lune. C'est ça la sagesse. La sagesse ne regarde pas l'impossible. Quand la sagesse regarde les montagnes, elle voit un petit caillou. C'est ça. Quand la sagesse regarde une montagne, elle a déjà vaincu la montagne. Quand Jésus dit que les montagnes vont se transporter là, les gens croient, c'est-à-dire les gens simples, croient qu'une grosse montagne de milliards de tonnes, on va prendre ça. Quand il dit que les montagnes vont se déplacer, ils ne comprennent pas le langage de Jésus. Jésus a un langage, les gens ne comprennent pas. Mais quand tu as percé un trou dans une montagne, tu l'as vaincu, oui ou non? Oui ou non? Quand tu as grimpé au-dessus d'une montagne, tu l'as vaincu, oui ou non? C'est ça. Quand on dit, ah oui, on va transporter les montagnes, les gens croient que Jésus a dit que tu vas prendre une grosse montagne. Si tu prends une grosse montagne, tu vas la mettre dans quel pays? Tu vois? Hey, regardez, les gens, ils sont... Si tu prends le Kilimanjaro, tu l'amènes au Burkina, tu vas mettre où? Quelle est la région qui va accepter que tu amènes Kilimanjaro? Bah, tu vas venir détruire quoi? Toute la région. C'est ça. Donc, jeunes gens, quand Dieu parle la sagesse, il faut savoir de quoi il parle. Il a un langage. Et le langage de Dieu est un langage simplifié. C'est-à-dire que quand Dieu parle, la solution est à côté. Ne cherche pas loin. La solution est là. Oui? Donc, les frères Wright ont montré aux savants de l'époque qu'ils sont de bons savants. Mais chaque savant est à sa génération. À chaque génération, des savants. Oui ou non? Mais aujourd'hui, comprenez? Donc, vous qui êtes là, vous ne devez pas être limité par nous. Nous avons notre limitation. Vous démarrez à partir de... Votre borne inférieure commence où? À notre borne supérieure. C'est ça l'humanité là. Oui ou non? Nous finissons la borne supérieure et vous la commencez là-bas, oui ou non? Avant que vous finissiez, vous avez fait tellement des exploits que si nous on venait vous regarder, vous dites, hein? On ne comprend rien ce que les enfants ont fait. On ne peut pas comprendre parce qu'on n'est pas de la même dimension. Aujourd'hui, les enfants s'asseyent, 9 ans, 10 ans, ils s'asseyent devant l'ordinateur. Et quand aujourd'hui, la plupart des grandes personnes là, des anciens, tous ceux qui ont des, tous ceux qui ont des cellulaires, qui ont des appareils et ordinateurs là, quand c'est en panne, qui répare? C'est des enfants à la maison. Tout le monde est embarrassé. Quand mon cellulaire est bloqué, je m'assois, je dis, ah, j'appelle un enfant. Quand il vient, il fait clac, 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 ça marche. Il dit, bon, papa, voilà. Pourtant, est-ce qu'il est allé à l'école? Parce qu'à chaque génération s'adapte une intelligence spéciale. Comprenez? Donc, votre génération là, il y a tellement de choses qui sont pour vous. C'est votre rêve là. C'est de ne pas dire, vous allez faire comme vos pères. Vous devez être supérieur à vos pères.